Le plaisir, il commence au niveau cérébral. Prendre une plante, se faire une petite préparation, préparer un bain aphrodisiaque ou une huile de préparation, ça me semble être une bonne démarche pour se mettre en condition pour que les choses arrivent d'une manière beaucoup plus naturelle.
C'est une invitation au plaisir que vous propose le docteur Jacques Labesca au travers de son ouvrage Les plantes du plaisir, paru aux éditions Ulmer. Bain aphrodisiaque, teinture mère revigorante, infusion stimulante, le choix est large et chacun y trouvera son compte. Un petit guide à dévorer aussi à deux.
Contrairement au langage populaire où prendre une avoinée n'est jamais une bonne solution, hein, l'avoine a toujours été utilisée par les maquignons pour donner du peps aux animaux. C'est-à-dire que c'est une plante qui est stimulante et c'est ainsi qu'on peut se faire un bon vin à l'avoine. On prépare une décoction d'avoine et ensuite, cette décoction, une fois qu'on l'a filtrée, on l'ajoute à l'eau du bain et c'est un effet stimulant. Il y a une plante qui est drôle aussi, il y a la sarriette. D'ailleurs, le nom latin de la sarriette, c'est Satureia montana, c'est-à-dire le satyre de montagne. Vous voyez déjà tout un programme. Et en fait, on a redécouvert les propriétés de la sarriette il y a très peu de temps. Un berger a vu que les ânes ne se tenaient plus quand ils mangeaient de la sarriette, et en langage provençal, d'ailleurs, il a appelé ça pebre d'ail, c'est-à-dire poivre d'âne. Et d'ailleurs, on retrouve cette propriété aphrodisiaque de la sarriette, à savoir que dans la règle de Saint-Benoît, vous savez, la règle bénédictine qui règle les monastères bénédictins, il y avait toujours dans les monastères des jardins médicinaux, qu'il fallait que les moines soient pratiquement en autarcie et puissent vivre et donc se soigner. Et la seule plante qui était interdite de monastère, et vous avez deviné pourquoi, c'était la sarriette.
Il y a pas mal de légendes aussi qui sont autour de certaines plantes, notamment une qui est la mandragore.
Oui, c'est-à-dire que la mandragore déjà, et je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui ne savent même pas qu'elle existe, parce qu'on croit que c'est une plante mythique, alors qu'en fait on trouve tout à fait des graines de mandragore. Et vous savez qu'il y a un conservatoire des plantes médicinales qui est à Milly-la-Forêt, près de la chapelle de Cocteau d'ailleurs, et à ce conservatoire on trouve des mandragores. Et c'est une plante qui, effectivement, a des vertus soi-disant aphrodisiaques. Alors là, je l'ai mise parce qu'elle est trop mythique pour pas qu'on en parle. Mais quant à ses vertus, c'est plus compliqué. Parce que souvent, la connaissance des plantes vient d'une anthropographie bibliographique. C'est-à-dire que un tel a dit que, comme il l'a dit, c'est sûrement que c'est vrai, et on reprend et on répercute. Alors, sur la mandragore, même s'il y a une petite nouvelle là aussi, vous avez vu qui est accrochée, le taureau d'Alexandrie, je ne suis pas sûr que la mandragore soit efficace dans les troubles sexuels, mais je pouvais pas échapper à l'envie d'en parler. La légende veut que la mandragore soit issue des pendus. On ramassait la meilleure mandragore, paraît-il, au gibet des pendus. La mandragore a une morphologie qui ressemble à la morphologie humaine. Et comme il y a une théorie dans les plantes qui s'appelle la théorie des signatures, qui dit qu'une plante qui ressemble à quelqu'un ou à quelque chose, c'est qu'elle a sûrement des fonctions par rapport à... Donc on l'a humanisé, la mandragore. On lui a donné des vertus. Et puis après, l'esprit n'ayant pas de limite, on s'est lâché sur la mandragore. Mais non, franchement, pour des questions relaxantes et stimulantes au niveau sexuel, il y a beaucoup mieux que la mandragore. Le principe de la plante, c'est qu'il ne faut pas raisonner. Je sais que c'est un petit peu difficile, parce qu'on a l'habitude de raisonner par rapport à des médicaments. Donc on dit qu'un médicament est bon pour l'estomac, pour le foie, ou stimulant, ou anxiolytique, voilà, on lui donne des étiquettes. Pour la plante, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire que la plante est une vraie usine comportant beaucoup de composants. L'ortie, par exemple, a plus de 200 composants, c'est-à-dire que vous voudriez fabriquer de l'ortie dans votre laboratoire, vous ne pourriez même pas. Et l'avantage de tous ces composants fait que la plante est adaptogène. Ça veut dire qu'elle s'adapte à vos besoins. Vous êtes trop énervé, elle va vous détendre. Vous êtes trop à plat, elle va vous stimuler. La même plante, par exemple, si vous prenez du ginseng, un site de ginseng, celle qui a été offerte à François Ier par l'ambassadeur du Siam à l'époque, d'ailleurs, je pense pas que François Ier en avait besoin, mais enfin, peu importe, d'après sa renommée, mais le ginseng est un stimulant. Vous allez dire, s'il est stimulant, il va m'empêcher de dormir. Eh bien non, pas du tout. Il va vous stimuler, mais il fera pas comme si vous prenez 10 cafés le matin et vous ne pourrez plus dormir de la nuit. Pas du tout.
Alors c'est embêtant parce que si je vous demande quels sont les éléments clés pour par exemple concocter un menu aphrodisiaque, ça peut autant faire un effet bœuf que pas du tout.
Un menu aphrodisiaque, je veux dire, les conditions du menu, il faudrait qu'on en parle tous les deux. Il faut créer les conditions en général. Et puis surtout les petites infusions, les petites préparations qu'on peut faire, les petits soins qu'on peut faire à son ou à sa partenaire et qui vont faire du bien. Par exemple, en ce moment, c'est bien une petite huile de mi-pertuis. À partir d'huile d'olive, vous faites une macération de feuilles de mi-pertuis. Vous savez, c'est cette plante qui fleurit jaune en ce moment. Et le mi-pertuis est un stimulant. Eh bien, vous préparez donc dans un litre d'huile d'olive, vous laissez macérer pendant 10 à 15 jours des feuilles de millepertuis. Vous allez avoir une huile un petit peu rougeâtre d'ailleurs, qui va être à la fois bronzante et en même temps stimulante au point de vue aphrodisiaque.
Comment se procurer toutes ces plantes? Comment les choisir et comment les utiliser?
Herboriser n'est pas toujours simple, d'abord parce qu'il faut être sûr de la reconnaissance des plantes. Donc bien faire attention à ne pas se tromper sur les plantes que l'on a ramassées. Toujours demander à son pharmacien ou à un spécialiste si on a des problèmes d'identification. Donc ça, toujours, on sait que les pharmaciens ont fait de la botanique dans leurs études et donc peuvent vous aider sur la reconnaissance des plantes comme ils le font sur la reconnaissance des champignons, par exemple. Donc si vous allez herboriser, déjà, il faut être sûr de la plante. Ensuite, il faut herboriser dans des zones qui ne sont pas polluées. Donc vous évitez les abords des champs qui sont traités, vous évitez les abords des routes, donc vous évitez tous ces endroits-là. Ensuite, il y a des conditions de conservation. Il faut bien les faire sécher ou les prendre fraîches en fonction d'eux, en étant sûr qu'elles n'ont pas été intoxiquées. Ensuite, et si on est en ville, c'est pas toujours simple, il faut rechercher des herboristeries. Et vous savez qu'il n'y en a plus beaucoup d'herboristeries puisque le diplôme d'herboristerie a été supprimé. Voilà, ils disparaissent à vue d'œil parce qu'ils n'ont plus droit. Ce sont les pharmaciens qui doivent vendre les plantes médicinales. Alors le seul problème, c'est que les pharmaciens, ça ne les intéresse pas beaucoup et que ce qu'ils vendent n'est pas toujours d'excellente qualité. Et là aussi, je suis un petit peu difficile, mais quand on achète une plante, il faut s'enquérir de l'endroit de ramassage, combien de temps a-t-elle été transportée, combien de temps a-t-elle été traitée, et de quoi, et sur quelle distance. C'est-à-dire qu'il faut une traçabilité totale, parce qu'une plante, c'est pas anodin. Quand on achète des gélules ou quand on achète des préparations de plantes, là encore, demandez, parce que il y a sur le marché des préparations qui ne devraient pas exister. On achète vraiment de la poudre pour aspirateur, quelquefois. Et qu'on ne dise pas qu'on fait de la phytothérapie, on vend des produits qui sont apparemment à base de plantes. On n'a pas la concentration, on n'a pas la composition et on n'a pas la traçabilité de la plante. Et ça, je suis formel. La phytothérapie est une médecine et comme toute médecine, elle doit avoir ses garanties. J'espère qu'il y a des personnes qui vont, par exemple, aller herboriser. Je trouve ça fantastique. Mais le jour où vous aurez des petits-enfants, en même temps que faire des confitures, aller ramasser des plantes et préparer un tas de choses qui pourront rendre service pendant l'hiver ou pour pouvoir faire découvrir à vos enfants ce que la nature peut nous apporter. Parce que franchement, au niveau de là-bas, on a tout ce qu'il faut pour se soigner. Hein, vous êtes piqué par un insecte, vous êtes brûlé, vous avez toutes les plantes qui agissent, qui peuvent agir, vous avez tout est à portée de là-bas. Donc faire découvrir aux enfants des villes, la campagne sous cet abord-là, aller se promener en découvrant telle plante, la reine des prés. Vous savez que la reine des prés est une plante extraordinaire qui a directement à donner naissance à l'aspiride, au nom aspiride, la Spiraea ulmaria. C'est la reine des prés, c'est la spirée. Et le chimiste allemand qui a découvert ce principe actif s'est inspiré du nom de la spirée, c'est le cas de le dire, donc de la reine des prés. Le seul problème qu'il y a, par exemple, entre la reine des prés et l'aspiride, c'est que lorsque vous prenez de l'aspiride, vous prenez qu'un principe actif. Lorsque vous prenez de l'aspirée, vous prenez toute une usine de principes actifs, et qui ne sont pas là pour rien. Et donc on peut très bien ne pas supporter l'aspirine, par exemple avoir des maux d'estomac ou des troubles d'accumulation, et avoir avec l'aspirée une action remarquable. Il n'y a pas un principe actif, il y a un tas d'adjuvants autour qui servent à quelque chose, pour favoriser l'absorption, pour limiter l'absorption, pour la rendre plus acceptable pour l'organisme. Les plantes sont faites pour l'homme. Le gros problème des plantes, c'est que c'est pas rentable, parce que les plantes ne peuvent pas être brevetées. Donc on ne fera pas de rentabilité sur une plante. Donc il n'y a pas de recherche qui est faite sur ça. En revanche, on va essayer de trouver à partir de la plante, de réduire la plante à un principe actif. Et ensuite, lui, on le brevette. Et on fait de l'argent. Je suis formel actuellement, il faut se méfier de cet effet de mode de la phytothérapie, parce que la phytothérapie est une excellente médecine. Attention à ne pas nous laisser récupérer par les puissances de l'argent, quelle qu'elle soit, parce qu'on risque de dénaturer ce qui, au départ, est une bonne idée.
De votre côté, vous êtes phytothérapeute. On peut revenir en quelques mots sur votre parcours?
Oui, bah moi, vous savez, j'étais interne des hôpitaux, j'ai fait ma médecine classique, hein, parce que, de toute façon, à mon époque, moi, il y a maintenant 30 ans que je suis installé, la phytothérapie, on n'en parlait pas, parce que ça faisait vraiment remettre de vieilles femmes. Alors qu'autrefois, médecine de bonne femme voulait dire médecine de bonne renommée, en latin famé, F-A-M-E. Bon, donc j'ai commencé ma médecine tout à fait classique, et je me suis rendu compte, au bout de 2-3 ans d'installation, qu'en fait, il y avait un tas de patients à qui je ne fournissais pas de solutions adaptées à leur cas. Et je me suis dit, il y a peut-être d'autres solutions que le médicament. J'ai pas dit qu'il fallait remplacer le médicament par, j'ai dit qu'il fallait élargir son champ d'action. C'est là où j'ai eu l'idée de me pencher sur la phytothérapie, et j'ai vu qu'on pouvait, par la phytothérapie, apporter beaucoup, beaucoup de solutions. Pour moi, la médecine, c'est de traiter les patients, c'est de s'occuper des patients et en tant que personne entière, et pas combattre les maladies, hein, pas combattre l'angine, mais traiter le patient qui est porteur d'une angine et comprendre pourquoi il a fait une angine, pour lui éviter la prochaine fois de refaire la même chose. Et on n'a pas tous les mêmes besoins, et à nous de nous adapter. C'est pas le patient qui doit s'adapter au médecin, c'est au médecin de s'adapter au patient. Et là, vraiment, on fait de la médecine.